un long cours un peu particulier avec cette musique de fond que vous reconnaîtriez ou vous reconnaissez peut-être. Vous savez, il y a parfois des trains que l'on prend comme cela et qui vous marquent à vie. C'est-à-dire, au lieu d'être assis sur un siège première classe et d'attendre votre repas avec le serveur qui arrive, je ne veux pas dire en frac, parce que dans ces pays-là, on est en blanc qui peut changer de teinte, mais on vous sert avec une gentillesse et des yeux qui, franchement, vous fait oublier que l'œil, le petit œuf n'est pas vraiment poché. Enfin, tout se passe bien, ça bouge beaucoup et vous avez exactement le même rythme que celui que vous entendez. Alors ça vous prend tout à coup, vous sortez de votre compartiment, vous vous glissez entre deux wagons et puis vous ouvrez la portière. Alors j'ai un petit truc comme ça, si vous mettez vraiment le pied tout à fait au fond contre la barre de métal et que vous appuyez le dos contre la porte, vous pouvez tenir la porte ouverte et vous prenez vraiment le rythme du paysage. En ce moment, il est jaune. Regardez les sommets, ils sont un peu blancs. Et oui, on vient de passer la Véronica. Vous passez du lac Titicaca. Vous venez de rester quelques instants sur le col de l'Araya. Oh, ça sent les 4000 et les poussières. Et puis on descend. Le rythme se prend. La vallée sacrée est là. Dans quelques instants, vous serez du côté de Cusco. Et vous rêverez juste à la tombée du jour. À l'Empire Inca, vous êtes au centre du monde. Jean Pichon est à mes côtés. On va partir pour le Pérou. Jean Pichon, même dans ma voix, il y a des... on a des petits bruits comme ça. Vous savez, quand le siège bouge, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes déjà assis sur un de ces escaliers de sortie de ce petit train jaune et orangé qui part de Puno, finalement, qui s'arrête à Juliaca, à La Raya, et qui, en une journée, nous amène
à Yaviri, bien sûr, il s'arrête aussi. Oui, je me suis même pendu à ces escaliers, parce que j'ai fait des photos de roues du train en train de rouler avec les roues en premier plan.
On peut remettre un peu le rythme, là ?
Ouais.
Le rythme est un peu rapide, finalement.
Ouais, et puis ça se coupe beaucoup moins, quand même.
Je dirais, ce qui m'a touché dans ce parcours, le lac Titicaca, c'est un peu votre spécialité, Jean Pichon. Je veux dire, vous n'avez pas encore construit un bateau de Totora, mais c'est pas loin.
Si, j'en ai construit.
Ah oui ?
Plusieurs.
Allez-y.
Pas tout seul.
Non, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a que les Aymaras pour bien les faire.
Voilà, tout à fait, avec une équipe de l'île de Santa Maria, une équipe de mes amis les Indiens Aymara Uros, qui vivent donc sur une île flottante. Et avec eux, j'ai eu l'occasion de construire plusieurs bateaux, puisque nous sommes restés un mois et demi sur cette île qui était grande, qui est grande comme la moitié d'un terrain de football. Donc en un mois et demi, avec la vie tranquille des hauts plateaux et surtout du lac Titicaca, on a le temps de faire beaucoup de choses, d'aller pêcher, d'aller chasser.
Sur une île, on a surtout envie de sortir.
Non.
Je veux dire, le bateau, c'est pour aller pêcher, c'est pour rendre l'île plus grande.
Sortie comme ça, oui, tout à fait.
Non, parce que l'espace n'est pas énorme. C'est vrai, sur le lac Titicaca, ce qui nous touche le plus, c'est la surface de l'eau, finalement.
Mais justement, c'est pour ça que l'espace est énorme.
Vous avez cette dimension dans la tête comme les Indiens ? Je veux dire celle du lac ?
Non, moi j'ai celle, j'ai la nôtre.
Ah ben voilà, vous n'avez pas les yeux bridés, vous n'êtes pas vraiment brun, vous êtes un peu européen quand même, non ?
Oui, puis je suis pas très poilu, mais je suis un peu comme lui, comme eux d'ailleurs.
Voilà. D'accord, allons-y, surface du lac.
8300 km² à 3800 mètres d'altitude. Il suffit d'inverser les deux premiers chiffres d'ailleurs, c'est un moyen mnémotechnique.
8300, 3800, d'accord, je me rappellerai, c'est pas mal. Et question de longueur, ça fait 200 et quelques kilomètres ?
Oui, à peu près 230. Et en largeur, 130, c'est grand comme deux fois le département de la Haute-Savoie, chez nos voisins.
Ah bon, je ne sais pas si les Genevois savent ce que... j'essaye d'imaginer. Moi, je vous dirais que ça fait en tout cas deux à trois fois le lac Léman, quand même.
Oh non, en plus, beaucoup plus.
Beaucoup plus ?
Oh là là là, une quinzaine de fois.
14, ah quand même.
14 fois.
Ah oui, il suffit de les aligner.
Ah oui.
Le lac Titicaca, vous parlez de sa largeur, c'est 130 km. Ce qui est impressionnant lorsqu'on se trouve sur une des îles que vous évoquiez, que ce soit à Mantani, que ce soit à Taquile, lorsqu'on part de Puno, il y a une sorte d'estuaire. On a l'impression d'être dans un lac relativement normal. Et c'est seulement quand on passe l'estuaire qu'on le voit immense et qu'on voit cette extraordinaire cordillère blanche du côté bolivien. Là, on se rend compte qu'on est dans une mer intérieure.
Oui, tout à fait, parce que quand vous parlez de la baie de Puno, un lac relativement normal, bon, c'est pas tout à fait le cas, parce que la baie est très très polluée. Donc,
c'est un lac normal, quoi.
Voilà, alors si vous voulez, vu sous cet angle, mais enfin chez nous, les lacs sont un peu moins pollués, on a un peu de la chance.
Ils l'ont été.
Oui, et ils le sont encore peut-être un peu toujours, mais pas autant quand même que la baie de Puno. Et puis c'est vrai que lorsqu'on arrive et qu'on découvre les îles de Mantani et de Taquile, on voit tout à fait au loin c'est la cordillère enneigée qui se trouve en Bolivie, avec l'Illimani, avec le Huayna Potosi. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Et c'est là qu'on découvre toute la grandeur, enfin une partie de la grandeur de ce lac, parce que on ne voit pas de l'autre côté finalement. On voit avec
le problème de l'horizon et
voilà l'horizon qui part comme ça, et puis on voit pas le pied des montagnes, on voit juste les sommets
parce que cette cordillère royale est particulièrement élevée, et c'est vrai qu'on ne voit que la pointe de ces espèces de pain de sucre blanc parfait. Ça a une allure folle, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que non seulement vous êtes photographe et que vous avez l'habitude de sortir votre appareil à chaque instant d'éclairage remarquable, mais il y a justement dans ce petit bout de traversée qu'on vient de faire une chose qui nous touche beaucoup. 3800 mètres d'altitude, c'est aussi la couleur qui est différente.
C'est pas la couleur qui est différente, c'est l'air qui est différent, la limpidité de l'air.
Il n'y a pas de rapport entre la couleur et l'air ?
Non, parce que la couleur, elle sera la même ici, mais si vous êtes prêt, j'allais dire un chuyo, c'est les bonnets que portent les Indiens à Aymara ou Quechua sur leur tête, eh bien ce chuyo, il aura la même couleur ici. Mais là-bas, par contre, c'est vrai que le soleil, du fait qu'on est en altitude, le soleil est donc très vif, la couleur est peut-être légèrement plus brillante, légèrement plus clinquante, mais par contre au niveau des paysages, c'est vraiment fabuleux, parce que là on voit très loin sans avoir de brouillard.
Il n'y a pas de filtre
élevé, tiens, aujourd'hui. Et puis oui, il n'y a pas de filtre dû à l'atmosphère, quoi. Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait mon bonheur.
Et puis il y a quand même un bleu par rapport au ciel qui peut pratiquement parfois tourner au violet, tellement il est intense.
Oui, je crois que le ciel, il n'a pas de bleu. Il est tellement pur qu'il prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à tout moment de la journée. Il a des jaunes qui sont vraiment faramineux certains soirs ou certains matins. Et puis, des fois, ça sera des oranges absolument fabuleux. Et puis, il y aura aussi du bleu, c'est vrai, beaucoup dans la journée.
Jean Bison, en vous écoutant, bon, vous occupez de projection, vous montez cela sur des carousels. On en parlera tout à l'heure, un peu de technique. C'est intéressant de partir d'un appareil de photo, puis finalement de faire partager non seulement cette passion de la photo, mais la passion de ce qu'on vient de vivre tout à l'heure, le partage avec des familles, avec des gens locaux. Vous avez un côté ethnographe, en tout cas, qui se voit sur l'écran, qui se sent dans votre message et votre conférence. Mais essayez de nous expliquer un peu comment finalement, au moment de la photo, on pense déjà aux résultats et aux romans, aux Français qui vont admirer une image sur un choix infini, puisqu'en fait vous présentez déjà plus de 1200 photos dans un diaporama, et qu'en fait vous en avez certainement pris 10 fois plus.
Oui, même beaucoup plus. Non, mais il y a plusieurs types de photos, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a la photo pour le reportage publié, la photo pour la carte postale, la photographie pour l'audiovisuel, qui sont des types de photos très différents.
Et vous pensez que par rapport à un audiovisuel, quand vous publiez dans un livre, ce n'est pas la même photo, ni le même choix, ni les mêmes cadrages ?
Non, en général, je ne fais pas le même choix, parce que la photo pour un audiovisuel, ça s'apparentera plus à une prise de vue cinématographique, c'est-à-dire une séquence photographique. Et dans cette séquence...
Vous vivez comme une séquence photographique, c'est-à-dire au moment de la prise de vue.
Bien sûr. Et dans cette séquence, que je prendrai pour l'audiovisuel, pour le spectacle, pour emmener les gens en voyage, je vais prendre des photos qui ne seront pas forcément bonnes, mais par contre qui seront très intégrées avec la précédente et avec celle qui viendra après. Et donc, il y aura une suite.
Donc, vous avez cette notion de fondu enchaîné dès le départ ?
Non, ce n'est pas dès le départ. Ça, je crois que c'est dû aussi au fait que j'ai fait pas mal de vidéos en tant que professionnel, et que j'ai fait un choix, qui est le choix de la photographie, parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans la vidéo et je préfère me singulariser d'une autre manière. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est au niveau des présentations, c'est avoir le contact avec le public. Si je fais des vidéos, ça va passer à la télévision, encore si j'ai de la chance. Et puis, je ne peux pas avoir un contact avec le public.
Alors, c'est le même problème que vous avez sur place, ou plutôt la même affection que vous avez sur place. Affection dans son sens un peu espagnol.
Oui,
affection et affection.
Oui, parce que ce n'est pas du tout un problème, au contraire. C'est vrai que, pour faire ces photographies, il faut une connivence avec les gens. Sinon, on peut voler les photographies, comme de temps en temps je fais sur un marché ou les choses comme ça. Mais pour prendre des photos ou être très près des gens, il faut être bien sûr faire partie de la famille.
À part le bateau, donnez-moi un exemple, je ne sais pas, de la sorcellerie, des choses très très difficiles à obtenir.
J'ai fait une séquence photographique, une série de prises de son aussi sur une fête de la pomme de terre sur l'île du Soleil en Bolivie. Et là, bien, j'avais préparé le terrain au mois de juin-juillet et la fête avait lieu au mois de novembre.
C'est comme les pommes de terre, ça se plante à un moment et ça
Ouais,
se récolte
tout à
à un autre.
fait. Mais là, pour la récolte, ça a été très dur. Et donc, j'y suis allé et au mois de novembre. Mais par contre, le jour où je suis arrivé, ben, les autorités ne voulaient plus que je prenne de photos. Alors, j'ai rangé mes appareils et puis ben, j'allais tourner le dos. Et puis, ils m'ont dit non, finalement, tu restes.
C'est parce que vous aviez eu le courage de...
Peut-être, oui. Puis bon, moi, je ne suis pas là pour voler les photographies. Sinon, quand on les vole, je veux dire, pour avoir des moments d'intimité, on les vole. À mon avis, elles sont toujours mauvaises ou pratiquement.
Et j'ai remarqué pour vous suivre depuis des années que vous n'utilisez que très rarement le flash.
C'est vrai,
On sent
lorsque
ce
je suis
côté
obligé.
pose.
Disons que j'évite au maximum les artifices techniques. Le flash, ce n'est pas un artifice technique, c'est un moyen bon, de prendre une photo quand on n'a pas assez de lumière.
Mais c'est
Mais
un
des
viol en
fois,
même temps, non?
mais il vaut mieux. Non, pas
Vous
forcément.
trouvez pas que c'est choquant?
Bah, pas du tout, dans la mesure où la personne où je fais partie de la
Oui,
famille.
non, ça veut rien dire, mais le flash a quelque chose de puissant, comme ça, comme une sorte d'attaque lumineuse au
Ouais, mais
moment
attendez,
d'un acte. Ou...
il faut pas s'affoler. Le flash, vous pouvez le régler. Donc, vous allez avoir envoyé un peu de lumière, mais bon, c'est une lumière. C'est le métier de photographe de doser ça. C'est
Je vous
pas.
laisse ça, Jean-Pichon.
Voilà. Bien sûr, il y aura l'agressivité de l'éclair. Mais si vous faites partie de la famille, c'est. Bah, écoutez, vous avez un mariage dans votre famille, vous alliez y aller, et puis
On
vous
est
allez
tout
faire
à
des
fait
photos.
d'accord.
Bon, ça, vous n'allez pas gêner.
Mais c'est vrai que ça m'a touché de voir à la fois dans votre livre, dans votre spectacle, cette douceur des lumières qui sont faites par pose. Il y a même ces mouvements qui tout à coup se suggèrent. Enfin, il y a quand même, on arrive à plus de poésie parfois.
Ben, je pense que oui, parce que c'est vrai qu'on travaille à ce moment-là en lumière réelle. Ça demande plus de, j'allais dire, de voltige, parce qu'il faut mettre l'appareil sur un pied quand les vitesses sont très lentes, etc. Mais là, je crois qu'on dérive un peu dans la technique.
Non, parce que je crois que les gens,
Ouais.
quand ils ouvrent votre livre ou qu'ils voient votre spectacle, ils sont sensibles à ces choses-là. On ne sait pas toujours les analyser.
Oui,
On
mais.
me dirait que ce n'est pas important de connaître la technique par rapport à cela.
Oui, c'est ça. Moi, je crois que c'est le résultat qui est important. Si le résultat plaît, ben, tant mieux. J'ai gagné parce que je suis arrivé, en plus de faire ce que je voulais, eh bien, de faire partager ce que j'ai aimé. C'est ça le plus important.
Si on y pense, c'est qu'il y a quand même toute une démarche, c'est-à-dire qu'on sent le métier et la qualité du métier derrière. Je crois qu'on y est totalement sensible. C'est-à-dire lorsqu'on a vu 1 000 clichés de votre spectacle, on ne peut pas être insensible à cette sensibilité-là.
Je crois que le plus important, c'est de faire ce qui nous plaît. Et la sensibilité, ben, si par l'intermédiaire du son, comment dirais-je, des prises de son que j'ai faites là-bas, du son que j'ai fait enregistrer aussi par des musiciens, et c'est pour ça que l'audiovisuel me plaît, c'est parce que justement, j'arrive, pour moi, et je pense pour beaucoup de spectateurs qui viennent nous voir, à recréer l'ambiance que j'ai ressentie là-bas. Et à ce moment-là, eh bien, on peut la faire partager. Je crois que c'est ça le plus important.
Jean Pichon, nous étions dans le train, on vient de passer le col de l'Aria et c'est vrai qu'il y a plusieurs villes, Sicuani, on peut s'arrêter un peu partout, mais quelle est votre impression lorsqu'on arrive effectivement sur le plan, je dirais presque mythologique, lorsqu'on sait qu'on va arriver à Cusco, votre première arrivée à Cusco, parce qu'on sait qu'on est dans le centre du monde, quand on dit Tahuantinsuyu, c'est vraiment l'empire des quatre parties, on est au cœur, on est dans ce jaguar un peu mythique.
Ben, je ne vais pas vous donner mon impression de maintenant parce que j'y suis tellement allé que j'avoue que moi, ça passe au-delà. Par contre, je vais vous donner ma première impression. C'est vrai
C'est celle-là que
que,
je veux.
voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Mais c'est vrai que je suis arrivé pour la première fois, je quittais l'Altiplano, c'était en 1987, je crois. Je quittais donc l'Altiplano avec le lac Titicaca. Et puis, il y avait donc toute cette partie mythique dans ma tête et l'arrivée à Cusco. Et à l'époque, j'avais pris le train des voleurs, qui est donc le train dont vous avez parlé tout à l'heure. Et ce train des voleurs a beaucoup changé, mais à l'époque, c'est vrai que je venais d'avoir dans ce train-là une aventure comme ça avec un voleur qui avait dérobé le sac d'un Américain qui avait bon, cherché un peu le vol. Et puis j'avais réussi à coincer ce voleur. Bon, enfin, et il y avait donc toute cette partie qui était très présente, et cette partie méfiance aussi, parce qu'il y avait énormément, énormément de vols à l'époque. Et lorsque je
Oh,
suis arrivé,
c'était même très organisé. Ça a un peu changé aujourd'hui. On
ça a beaucoup
continue.
changé.
Oui.
Ça a beaucoup changé.
Ah oui, il faut le dire. Je veux dire,
oui,
il,
oui. Moi, je
la
le
crainte
dis.
Qu'on avait du Pérou a un peu changé. Bon, économiquement parlant, ce n'est pas encore le pays le plus extraordinaire. Donc, il y a effectivement des gens qui manquent encore de quelque chose et qui se servent.
Oui, tout à fait. Mais donc, pour revenir à cette impression d'arriver à Cusco, c'est vrai qu'il y avait donc toute cette partie, j'allais dire, à risque qui était importante, qui était présente dans ma, physiquement. Et puis, il y a eu tout ce voyage. Parce que c'est vrai que les paysages qu'on rencontre entre Puno et Cusco sont vraiment très très beaux, ils sont magnifiques. Et donc avec cette ambiance de beaucoup d'Indiens qui étaient là, qui vendaient à manger, qui vendaient à boire, nous on était vraiment assis parmi eux, il y a des gens qui étaient assis, moi-même j'étais aussi d'ailleurs assis en grande partie par terre dans l'allée parce qu'il y avait énormément de monde. Et lorsque je suis arrivé à Cusco, venant de quitter cet altiplano tout jaune, parce que l'herbe, donc c'était en juin autant que je me souvienne, l'herbe était donc toute jaune et puis le lac tout bleu. Et donc, arrivant à Cusco et de voir une vallée verte comme ça faisait à peu près un mois et demi, 2 mois que j'avais plus de vue de vert. Et c'est vrai que ça a été presque magique. Et à l'époque, bien sûr, Cusco n'était pas aussi développé que maintenant. Et je me souviens que j'étais arrivé le soir à la gare de Cusco et il y avait donc beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, la nuit, j'avais pris un taxi. On était monté à plusieurs à l'époque aussi dans ce taxi. Et on était allé sur la Plaza de Armas. Et là, j'avais vu encore beaucoup, beaucoup de gens habillés de manière traditionnelle. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le cœur de Cusco, ça a beaucoup changé.
C'est vrai, si on est en période de fête, si on arrive au moment des fêtes du soleil, là, puisque vous étiez au mois de juin, c'est vrai que tous les gens des environs se retrouvent à Cusco et finalement, on retrouve encore un côté traditionnel. Mais quelle a été votre impression lorsque vous vous êtes trouvé face à cette cathédrale, à cette église des Jésuites, en sachant que là, il y avait un palais avec les femmes choisies, lorsqu'on se retrouve à Santo Domingo en voyant ce mur extraordinaire et qu'on se dit que c'était le temple du soleil.
J'ai eu l'impression que les Espagnols et notre civilisation étaient de passage dans ce pays-là. Parce que partout, tout au moins dans le centre de Cusco, on voit que les soubassements des maisons sont...
Les racines, finalement.
Voilà, les racines sont donc quechua, sont donc incas. Et puis tout ce qui est construit au-dessus, eh bien, ça a été fait par les Espagnols, par notre civilisation. Et j'ai eu l'impression qu'il ne suffisait de pas grand-chose pour que tout ce qui était au-dessus parte et que tout le reste reste.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je l'ai ressenti de façon viscérale. Vous savez que le plus gros tremblement de terre qui a eu lieu à Cusco, c'était en 1950, et que justement le Temple du Soleil n'a pas bougé, bien sûr. Là je parle des racines que vous évoquiez, ces pierres extraordinairement taillées, qui sont même souvent jointoyées à l'intérieur du mur lisse, c'est-à-dire comme si on faisait un Lego et que ça tenait comme un Lego. Et puis dessus, il y avait toute la construction hispanique, c'est-à-dire le couvent de Santo Domingo, qui est complètement tombé d'ailleurs.
Oui,
et on a retrouvé les racines et on a même retrouvé les salles complètes que les moines avaient utilisées pour faire la base de leurs cellules ou de leur chapelle. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tout à coup raser le dessus et retrouver vraiment cette intensité incaïque. Et d'ailleurs, les Incas,
presque.
Oui, et les Incas construisaient de façon antitellurique. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'éternel. Enfin, quand on est à Sacsayhuaman devant une masse de 100 tonnes par petit caillou et qu'on voit que plus vous bougez... Moi, je donne toujours une image. Quand vous êtes... je ne sais pas si vous connaissez les shakers qu'on utilisait dans les bons vieux bars d'antan. Vous mettiez vos cubes de glace à l'intérieur et puis on avait envie de secouer en mettant du liquide. Mm-hmm. Et c'est un peu ça, un tremblement de terre au Cusco. Si vous secouez, les cubes de glace reprennent exactement la même position qu'au départ.
Oui, disons que pour continuer quand même par rapport à ça, il n'y a pas que Cusco, il n'y a pas que Sacsayhuaman, il y a aussi Machu Picchu et toutes les constructions que l'on trouve, Pisac, etc., qui sont avec cet angle à peu près de 7 degrés, qui est donc effectivement fait pour résister au tremblement de terre. Et pour aller plus loin, lorsque je suis rentré dans les églises de Cusco, qui sont absolument fabuleuses, qui sont vraiment c'est des draperies d'or, j'ai encore eu plus l'impression de devoir donc ces choses vraiment très très belles, comme si c'était du clinquant qui était arrivé et plaqué là sur une civilisation authentique qui n'avait pas disparu mais qui allait revenir.
Vous avez enregistré certains sons et surtout certains chants. C'est un peu la tradition telle que vous la dites, c'est-à-dire même par le son, par la voix, par la langue, on a l'impression encore parfois d'être non seulement quechua mais d'être en tout cas précolombien.
Charango y tatu, canicus.
Jean Pichon, tout à l'heure nous étions sur la Plaza de Armas de Cusco et vous évoquiez le côté traditionnel. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de visiter Machu Picchu avec un groupe indigène, avec, je ne sais pas, par exemple, des Aymara venus de Titicaca avec leur poncho rouge de la région de Taquile ou d'ailleurs et qui se baladent sur les ruines de Machu Picchu? C'est aussi une image.
Question. Est-ce que vous pensez que les Aymara du lac Titicaca vont visiter le Machu Picchu?
Eh oui, j'en ai vu.
Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que moi, j'en ai jamais vu. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup. Les seules personnes que j'ai vues en vêtements traditionnels, c'est lorsque je suis arrivé. Bon, je suis allé à peu près une dizaine de fois au Machu Picchu. Et une fois, j'ai fait entre autres le chemin des Incas. Un chemin d'ailleurs fabuleux qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment quelque chose à vivre. Parce que plus on s'approche du Machu Picchu et plus on découvre des ruines de plus en plus importantes. Et ça, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est encore autre chose. On pourra encore en parler pendant des heures et même peut-être pendant 4 jours, le temps de faire le
temps de faire la marche.
Mmh. Ou alors 6h15 si vous allez vite, puisque c'est le record de la course. Et donc, les seules personnes que j'ai vues habillées traditionnelles, de manière traditionnelle, c'était les porteurs du chemin des Incas. Alors c'est vrai que quand on arrive dans ce site et qu'on voit ces gens-là avec leur chapeau plat, leur petit ruban qui pend du chapeau et puis leur pantalon qui arrive
à mi-mollet.
On se demande ce qu'on fait là, nous, avec nos jeans ou avec nos vêtements contemporains. Et c'est vrai que ça crée un décalage qui est très intéressant à vivre.
Là, je parlais d'Aymara tout à l'heure. C'est vrai qu'il m'est arrivé de partir de Puno avec un groupe de musiciens traditionnels. Ils étaient une bonne vingtaine. Ils ont occupé complètement un wagon, comme le train que nous prenions tout à l'heure, et ils sont arrivés à Cusco au moment des fêtes du soleil. Ils avaient envie de faire les fêtes du soleil, et puis je les ai retrouvés tout à fait par hasard quelques jours après sur le site de Machu Picchu, tous habillés en rouge avec leurs tambours et leurs flûtes. C'était assez impressionnant. C'était Tintin.
Et ils jouaient là-haut.
Ah, vraiment, le temple du soleil.
Mm-hmm. Ah, je vous envie.
Ben oui, vous avez raison. Il faut mettre des images comme ça, des couleurs. Machu Picchu, vous l'avez évoqué en arrivant par le chemin de l'Inca, c'est-à-dire vous passez cette dernière porte, vous avez déjà visité les 30 et quelques fontaines de Huayna Huayna, et vous plongez tout à coup sur cette vision. Tout le monde l'a vu.
Oui, c'est tout le monde, je ne sais pas, parce que...
La différence, c'est de le vivre.
Oui, c'est ça. Tout le monde voit cette image, puisque c'est vrai que le Pérou se vend par deux images traditionnelles, qui sont d'une part le Machu Picchu et d'autre part les Indiens Ouros sur le lac Titicaca. Par contre, le fait de le vivre, ça donne une dimension évidemment bien autre à ces images. Et lorsque on arrive de manière traditionnelle, c'est-à-dire que, j'allais dire un peu en tant que touriste pressé, on arrive par le train en bas et puis on ne prend pas la peine de monter.
Si.
Il y en a peu. Il faut pas me dire si.
Non, je dis si parce que je ne peux pas rentrer sur le site de Machu Picchu par la porte des paysans.
Oui, mais il y en a donc très très peu qui font ça. Et ça vaut vraiment le coup de monter à cette porte qui domine vraiment tout le site. Et on voit juste derrière Machu Picchu, donc le Huayna Picchu, qui est le pic, l'espèce de pain de sucre qu'on voit sur toutes les photos et qui identifie les ruines. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que on a en plus tout ça. On le voit sur le fond de la cordillère des Andes. Et si ce jour-là, parce que ça se produit quand même assez souvent qu'il fasse beau, et si ce jour-là, eh ben, il fait beau et que vous voyez vraiment la cordillère des Andes dans son ensemble avec la neige au fond et le ciel bleu, c'est encore d'autant plus fabuleux. Et être là-haut, alors en plus, le 21 juin, c'est encore un piment supplémentaire parce que là, les premiers rayons du soleil qui viennent donc lors du solstice d'hiver, là-bas on est dans l'hémisphère sud, il ne faut pas l'oublier, donc viennent éclairer très exactement le l'Intihuatana, qui est donc le lieu sacré, qui est la pierre.
L'endroit où l'on attache le soleil.
Voilà, l'endroit où l'on attache le soleil. Et c'est donc cet endroit-là qui a été construit par les hommes, qui est le plus haut dans le site du Machu Picchu. Et ce sont vraiment, moi j'étais donc le 21 juin de cette année, et vraiment les premiers rayons du soleil viennent éclairer cet endroit-là. Et y compris le soir, les derniers rayons du soleil viennent éclairer cet endroit-là. Et c'est vraiment fabuleux d'avoir trouvé et mis en valeur un site naturel pour l'exploiter à des fins astronomique, on va dire.
Mm-hmm. Ce qui est justement extraordinaire, c'est ce que vous venez de dire, c'est cette dernière phase, c'est-à-dire que Machu Picchu, c'est un immense ensemble naturel, je veux dire une configuration naturelle, et l'Intihuatana qu'on vient d'évoquer, c'est vraiment un aménagement, une sorte d'économie extraordinaire où on a juste taillé, enlevé quelques parties de pierre de cette roche vive qui était la pointe d'un véritable rocher finalement, et qu'on a simplement aménagé pour en faire un objet de culte. Mm-hmm. Et on le ressent partout à Machu Picchu. Je donne souvent, par exemple, il y a des endroits du site qui sont étonnants, y compris le Huayna Picchu, le sommet du Huayna Picchu fonctionne comme cela aussi. On a l'impression que le doigt des dieux a simplement déplacé quelques sucres. Vous savez, quand vous êtes dans un sucrier et que vous mettez comme ça un paquet de sucre, on a l'impression qu'il y a des blocs de 20, 30, 100 tonnes qui sont placés là tout à fait par hasard par la nature. Et au sommet du Huayna Picchu, au sommet du pain de sucre, il n'y a que des blocs énormes comme ça qui forment des espèces de pseudo-grottes, des choses curieuses. On a envie de rentrer dans un culte de la nature. Il y a même des endroits qu'on a cernés en mettant comme une sorte de gemme à l'intérieur d'une bague en forme de muraille, en construisant autour.
Avec par exemple un condor qui a été taillé dans la roche et qui utilise complètement les formes naturelles. Mais on dirait que vous y êtes allé.
À Machu Picchu?
Oui.
Oh, écoutez, oui.
Vous avez été passionné par le lieu en plus.
C'est un des endroits les plus fabuleux du monde. Et d'ailleurs, c'est je crois, ces endroits magiques qu'on choisit, par exemple, pour passer un millénaire. Je sais que je passerai le millénaire prochain sur les ruines de Machu Picchu. J'ai déjà installé mes tentes.
C'est vrai? Mais on ne vous les a pas enlevées?
De quoi, les tentes?
Oui, faut faire attention.
Non, elles sont surveillées. Elles vont pousser à temps.
Bon, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le Machu Picchu et toute la vallée sacrée des Incas, dans le cadre de la cosmologie andine, c'est-à-dire bon, les traditions qui ont à voir avec l'au-delà, sont très importantes puisque la vallée sacrée des Incas serait un reflet d'une voie lactée. Ça donc je l'ai appris tout récemment et il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent donc à cette cosmologie andine et ça c'est encore fabuleux, mais ça disons que c'est un autre volet, on entrouvre une porte avec beaucoup de noir et puis beaucoup de lumière aussi.
Il y a beaucoup de choses à apprendre du côté péruvien, c'est simplement que le silence presque total des hispaniques que vous évoquiez tout à l'heure, qui n'ont utilisé que des méthodes mexicaines pour évangéliser le Pérou, ont complètement caché la vérité inca et on la découvre à peine maintenant à travers les Indiens.
Oui. Disons que la différence, et là vous le savez beaucoup mieux que moi par contre, en ce qui concerne le Mexique, c'est-à-dire les civilisations aztèques et Mayas, les Incas ont laissé très peu de bas-reliefs, très peu de sculptures, ce qui fait que toute leur mémoire était finalement dans les quipus. C'était leur manière d'écrire.
Les quipus, il faut dire, ce sont ces petites cordelettes à
une nœud. Cordelette horizontale et puis tout un tas de cordelettes verticales qui vont jusqu'à 80 cm, 1 mètre, 1 m 20. Et puis, en fonction de la couleur de ces cordelettes et des nœuds et des assemblages, eh bien, cela voulait dire quelque chose. Et c'est vrai que les Espagnols ne connaissant pas, parce que c'était un langage très excessivement compliqué, donc les Espagnols ne connaissant pas ce que ça voulait dire, et ils ont eu quelques bribes, ils ont détruit beaucoup de la mémoire de ce peuple. Donc ce qui fait qu'il ne reste pas grand-chose.
Oui, là vous parlez de mnémotechnie, enfin de façon de retenir les choses, et c'est vrai que c'est très typique des précolombiens qui n'avaient que très peu d'écriture dans la région. On a des signes, on a des symboles, on a des couleurs sur les queros, sur des espèces de vases en bois qu'on a retrouvées. Mais je veux dire par là que l'Inca aujourd'hui se découvre à travers l'Indien. Dans la mesure où, par exemple, votre Voie lactée qui correspondrait à la vallée sacrée, je ne sais pas, ça me rappelle un souvenir bolivien où tout à coup j'étais avec un ami qui étudiait les pistes de Nazca, qui font rêver tout le monde au Pérou aussi parce qu'elles sont très énigmatiques.
Bien sûr.
Et on s'est retrouvé au moment d'une fête le 25 juillet, qui est donc la fête de Saint-Jacques, et on s'est retrouvé dans une vallée avec quelqu'un qui balayait une piste. Il avait pris son balai et ils étaient deux et ils se sont mis à balayer une piste qui faisait une dizaine de kilomètres et qui traversait toute la vallée. Il y avait une chapelle à chaque bout et les deux chapelles s'appelaient chapelle de Saint-Jacques. Donc c'était pour la fête du jour. Et puis de fil en aiguille, on a demandé pourquoi il balayait. Il dit écoutez, on est en train de refaire la Voie lactée. Et quand on pense à Saint-Jacques de Compostelle, eh bien on sait qu'effectivement tous les pèlerins suivaient la Voie lactée et que Saint-Jacques a toujours un rapport avec la Voie lactée. Donc on peut être Inca et faire quelque chose de chrétien et pourtant c'est encore une piste comme elles existaient il y a 2000 ans.
Oui, disons qu'en ce qui concerne toute cette partie du Pérou, qui est donc loin des Andes, qui est au pied des Andes,
les chamans, les...
Je pense aux traces.
Ah, les pistes.
Voilà, les pistes.
Avec tous les dessins. Perdu la piste.
Avec tous les dessins, oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est encore... il y a plein de mystères. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est que dans cette civilisation Inca, et actuellement, il y a encore énormément de mystères. Alors il y a beaucoup de traditions orales qui se sont transmises. Ces traditions, évidemment, on ne les retrouve plus dans les villes ou très peu. On les retrouve essentiellement dans les campagnes. C'est peut-être pour ça aussi que je vais toujours en reportage beaucoup plus dans les campagnes que dans les villes. Quoi. Mmh. Et toutes ces traditions font que c'est très intéressant.
Si on reparle maintenant de votre mise en page, c'est-à-dire de comment naît un ouvrage sur un pays, j'avoue qu'en toute humilité, chaque page que j'ai tournée était un éblouissement photographique. Je veux dire, vous avez un choix qui est quand même assez pointu.
Oui, je suis à peu près rouge comme.
Mais vous avez raison, comme la bonnette du micro. Tout le monde voit la bonnette du micro, d'ailleurs.
Avec ce que vous dites.
À la radio, c'est génial.
Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai parlé du rouge.
Oui, vous avez raison, c'est une couleur.
Tout à fait. Non, écoutez, en ce qui concerne ce livre, je crois que c'est un petit peu comme.
Quel est son titre ?
Pérou de légende et de tradition. C'est un peu comme un audiovisuel, c'est-à-dire que ça prend forme au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des sensations que l'on éprouve. Et donc, pour l'audiovisuel comme pour le livre, il a fallu faire un choix assez draconien, bien sûr, comme tout auteur, tout réalisateur qui veut mettre un tas de trucs. Et puis, ce livre est rentré dans le cadre d'une collection, donc j'avais tant de pages, j'avais pas plus, parce que le seul critère que j'ai eu la chance d'abord d'être contacté par deux éditeurs. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, des gens veulent faire un livre avec moi, eh bien d'accord, mais à une seule condition, c'est qu'il soit à moins de 50 francs à la vente en librairie.
Là, vous parlez de francs suisses.
Ah oui, bien sûr, je suis français.
Non, vous avez raison.
D'accord.
Il faut mieux le dire.
Oui, non, 50 francs suisses. Ça, c'était vraiment la condition, parce que je ne voulais pas faire un ouvrage qui soit très élaboré. Il a beaucoup de travail et un rapport qualité-prix qui est excessivement important. Mais je ne voulais pas faire quelque chose dans les 100 francs ou quelque chose comme ça.
On y est maintenant. D'accord, on est à moins de 50.
Voilà, on est à moins de 50.
C'était édité chez qui, là?
Alors, à partir de ce moment-là, Anaco.
Ben voilà. On aura tout dit, la page de publicité voilà, est terminée. On ouvre le livre.
Donc, je suis parti effectivement de mon travail sur le lac Titicaca, des reportages que j'avais fait sur le lac Titicaca et de mon travail photographique existant. Et puis après, je me suis dit, moi ce qui m'intéresse, c'est le sud du Pérou, le sud traditionnel du Pérou. Donc il y a le canyon des Colcas, il y a Cusco, et donc j'ai complété mes reportages sur le lac Titicaca et mes photographies par des photographies que j'ai faites donc en mai et juin dernier, tout spécialement donc pour le livre. Mais là, l'idée, c'est aussi de retourner dans cet endroit-là de façon à vivre beaucoup plus avec les gens que je ne l'ai fait. Parce que ce que j'ai fait sur le plan photographie, bien sûr, j'ai participé à, comment dirais-je, à un pèlerinage chrétien qui est le Corpus Christi. Quelques jours avant, j'étais à 5000 mètres d'altitude pour faire le pèlerinage de l'Inti Raymi. Donc tout ça, c'est la vie des gens. Mais c'est pas la vie comme je le souhaite, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses.
Faites attention, Jean Pichon, vous êtes en train de prendre racine. Jean Pichon, je disais prendre racine, mais on le sent, on peut le dire, comme vos Indiens locaux, comme les Indiens locaux, il ne faut jamais s'attribuer les Indiens.
Non.
Nous nous connaissons, et c'est toujours intriguant de suivre quelqu'un sur plusieurs années d'expérience hispanique ou indienne, parce qu'effectivement, tout à coup, il y a un balancement et on sent que les racines poussent de plus en plus profond. À chaque fois qu'on retourne, on apprend, on s'imbibe, on se remplit. Il y a quand même toute une philosophie là derrière. Jean Pichon d'il y a X n'est pas le Jean Pichon...
C'est logique.
Ben oui, c'est logique. Mais là, je parle vraiment...
Le Maurice Efti d'il y a quelques années n'est plus le même.
Je le souhaite aussi. Non, mais je parlais de cette impressionnante façon d'être pris par ce monde indien.
Oui, c'est pour ça que... Chaque fois, les gens me disent « Ah, mais vous allez repartir un an ?» Parce que c'est vrai qu'avec notre petite fille, enfin avec Annie et notre petite fille de 16 mois, nous allons repartir un an à partir du mois de mars.
Elle a un joli prénom, cette petite fille ?
Margot.
Margot.
Oui, enfin, en tout cas, c'est une petite fille. Voilà, tout à fait. Et puis, donc les gens nous demandent toujours « Mais vous repartez là-bas, vous n'en avez pas assez ?» Il y en a qui me disent « Mais vous n'avez pas épuisé le sujet ?» Alors, bon, c'est un petit peu comme faire des reportages sur la Suisse, comme faire des reportages sur la France, on n'épuise jamais le sujet. Et c'est en retournant...
Vous avez beaucoup moins de conviction quand vous dites ça.
Non, parce que moi, je ne fais pas des reportages sur la Suisse, je ne fais pas des reportages sur la France,
non,
mais d'autres le font.
Mm-hmm.
Et à partir de ce moment-là, on a toujours des choses à dire à partir du moment où on s'adresse justement, où on parle des gens, on parle de leur tradition, on parle de leur vie. C'est vrai que si on parle d'un paysage, et même en parlant d'un paysage, je pense que chacun le verra avec ses yeux, en fonction du temps, en fonction d'un tas de trucs, de son moi, de son soi intérieur.
Je vous arrête, Jean Pichon. Vous venez de dire que par rapport à la Suisse, à la France, vous faites un travail justement exotique, c'est-à-dire très différent dans un monde indien que vous suivez depuis des années. Qu'est-ce qui fait qu'on change de monde et que vous avez les yeux qui se brident et la peau qui fonce et petit à petit vous avez du sang indien dans les veines? Comment est-ce qu'on choisit une civilisation ou une façon de fonctionner? Vous pourriez faire cela à Bali comme en Inde ou ailleurs?
Non, j'ai toujours aimé... Bon,
ça, c'est le...
presque je ressens, beaucoup trop de gens vont en Asie. Alors moi, je préfère déjà aller dans un endroit où il y a moins de monde. Et puis, il y a toujours cette lumière... qui m'attire toujours. Donc cette lumière, on peut la retrouver en Himalaya. Cette lumière, je l'ai connue quand j'ai fait de la haute montagne ici, ou quand je fais de la haute montagne ici dans nos régions. Et donc cette lumière, je la retrouve là-bas. Mais ce qui m'intéresse, sont les traditions, sont les gens et les traditions. Parce que tout le monde peut aller dans chaque pays et puis revenir avec des photos de paysages. Par contre, revenir avec des photos de gens, c'est beaucoup plus difficile. Et vivre avec les gens, c'est encore plus difficile parce que ça nécessite du temps. C'est pour ça que chaque fois qu'on part, on part toujours un an en général. Parce qu'on va dans des coins qu'on connaît déjà, mais, ou qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. Mais ça nécessite toujours du temps pour arriver à vivre, à faire partie d'une famille.
Alors on vous connaît pour l'Équateur, on vous connaît pour le Pérou. Qu'est-ce que vous allez grignoter, la Bolivie?
Je vais retourner au Pérou, et puis je vais retourner aussi en Bolivie. Parce que la Bolivie, je n'ai pas fait de réalisation audiovisuelle, mais j'y suis allé plusieurs fois. J'ai déjà fait des reportages qui ont été publiés. Et puis, sur le Chili aussi, d'ailleurs.
Donc, il faut attendre quoi ? Une année et demie, deux ans, jusqu'à ce qu'on voit Jean Pichon, Bolivie
Oui, vers l'automne 2000. Allez, on prend rendez-vous l'automne 2000. Mm-hmm. Il y aura une autre réalisation.
Je vois très bien qu'un petit chapeau anglais sur la tête, comme ça, en forme de boule.
Oui.
C'est plutôt pour les femmes, je vous laisse.
Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de retourner toujours, et j'en reviens à la question que vous me posiez. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de retourner. J'ai pas envie de faire un papillon, parce que pour moi, je gagne ma vie aussi avec les reportages que je fais. Et arriver dans un endroit, connaître déjà l'histoire de ce pays, connaître des coins, on va beaucoup plus en profondeur. Alors, le danger qu'il y a, c'est de faire attention à ne pas être trop spécialiste. On peut être spécialiste quand il y a besoin. Mais il ne faut pas qu'on soit trop spécialiste pour écrire, j'allais dire s'adresser au grand public. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne nous écoute. Parce qu'on arrive à parler de choses que les gens ne connaissent pas et ne comprennent pas. Donc il faut automatiquement, en fonction des reportages, soit devenir spécialiste, soit rester, j'allais dire, généraliste. Et c'est tout le problème de notre métier finalement, c'est d'arriver à faire la part des choses.
Mmh. Si je vous demandais maintenant de vous asseoir, d'accord, vous laissez votre appareil sur le côté un instant, quel serait votre... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des paysages ou des endroits... je ne sais pas, en feuilletant le livre par exemple, j'ai été touché par des photos de Maras.
Maras, ah ouais, c'est fabuleux ça, Maras.
Ah oui, il a les yeux qui s'allument du coup, il est tout blanc là.
Non, c'est génial, c'est vrai.
Couleur
c'est
vrai. De sel.
Bon, en gros, vous êtes à 3500 mètres d'altitude, vous êtes au cœur de la cordillère des Andes. En plus, vous êtes juste sur la gauche en descendant de la vallée sacrée des Andes.
Attendez, là j'y suis, sur la gauche en descendant de la vallée, oui.
Ouais, de Pisac à Ollantaytambo. Et puis là, dans une petite vallée presque perpendiculaire, vous tournez la tête et vous voyez des taches blanches
vous
comme ça.
Vous partez de Piyucay ou...
De Pisac, vous descendez comme
d'accord.
ça en direction de
Ollantaytambo. Non, c'est comme si on y était.
Ouais, et puis vous voyez des taches blanches. Alors là, il y a près de 4000 lacs qui sont en terrasse. Alors évidemment, ce n'est pas des gros lacs. C'est des petits lacs qui sont grands comme une pièce, une salle de séjour.
Vous venez de regarder autour de vous, ça fait à peu près la forme d'une mare, c'est ça?
Oui, voilà. Maracana. Même peut-être un peu plus petit que la mare. Mmh. Donc c'est même pas aussi grand qu'un salon.
Le et
donc,
studio y en a d'à 4000. Côté et le nôtre.
Oui, alors les auditeurs, ils connaissent vos studios. Mais
oui, justement, il faut qu'ils viennent pour voir la surface.
Et puis, et donc là, il y a 4000 petits lacs qui sont faits, ce sont des marées salantes simplement. Alors c'est très contrastant et très très beau de voir justement ce blanc. J'ai eu la chance, parce que bon, il fait beaucoup, souvent beau, mais j'ai fait une photo qui me plaît énormément, une photo de situation de ces petits lacs avec justement un fond de cordillère et un ciel bleu magnifique. Et il y a un contraste fabuleux entre le blanc, le bleu, le brun ou l'ocre jaune de l'herbe ou des montagnes. Et c'est vraiment très très beau. Quoi.
Jean Pichon, vous pouvez m'habiter un peu ces terrasses, parce que c'est vrai qu'elles ont une façon de descendre comme cela en plaque, puisqu'il y a de l'eau.
Oui, sur une pente assez raide d'ailleurs.
Mm-hmm.
Et tout part d'un petit filet d'eau qui sort de la montagne, c'est de l'eau salée. Et donc ces petites terrasses ont été faites simplement pour récupérer le sel par évaporation de l'eau, ça se connaît, c'est connu ça. Mm-hmm. Mais par contre le lieu est tellement fabuleux. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Indiens, les Quechua qui cultivent, qui sortent sur le sel, appartiennent à deux villages. Et depuis des centaines d'années, ils se repassent les concessions au gré des héritages. Alors soit ça se morcelle, soit ça se regroupe en fonction des mariages. Et donc les Quechua qui sont là à retirer le sel de cet endroit, eh bien, habite le village au-dessus de Maras ou le village en dessous, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et voilà, depuis des centaines d'années. Alors on est sûr aussi que ces gens-là sont vraiment des descendants des Incas.
Tout près de Maras, il y a un étrange entonnoir. L'avez-vous visité? C'est un entonnoir qui commence, si ma mémoire est bonne, à quelque chose comme 4000 mètres, et puis petit à petit, un peu moins, peut-être 3006, 3005, qui monte jusqu'à 4000. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un entonnoir avec des terrasses.
Morai.
Et ça, c'est un des endroits les plus magiques qui soit, puisqu'en bas à Morai, dans le fond de l'entonnoir, on cultivait des choses qui correspondaient à l'Amazonie, et tout en haut, on cultivait des choses qui correspondent à l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire à plus de 4000 mètres. dire une sorte de laboratoire andin.
Comment vous savez tout ça?
Oh, je sais pas. Moi, je
vous y étiez à l'époque?
Je crois que j'ai vécu effectivement avec quelques Incas planteurs de pommes de terre et de racines étranges.
Ah ouais, c'est pour ça. Mmh. Vous y allez, par exemple.
Ça, c'est le genre d'endroit aussi magique que votre terrasse.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'il y a deux trous comme ça. On dirait que ce sont des cratères simplement, qui donc des cratères naturels qui ont été exploités. Il y a des terrasses Incas qui permettent effectivement, qui permettaient à l'époque de cultiver des plants très très différents. Et c'était aussi une étude pour les Incas. Ça leur permettait d'étudier un peu, savoir comment, ce qu'il fallait faire pour que ça pousse correctement.
Je dois vous dire, j'ai juste pris quelques petits grains de pollen à chaque étage pour savoir quelles plantes il y avait à l'époque précolombienne. C'est comme cela qu'on a su. Ah. Comme quoi, même le silence peut parfois parler.
Vous m'en direz tant, cher Maurice.
Pichon, vous... Jean Pichon, on va feuilleter ce livre ensemble. On va laisser l'auditeur refermer son transistor ou son... En quoi?
Non, pas son imagination.
Ah non, sûrement pas. Ça, c'est ouvert. Je vous laisse. On s'est donné rendez-vous, effectivement, en automne 2000. Ce sera marqué Bolivie. Ce sera pour la prochaine. Merci, Jean-Pierre.
Bolivie et Pérou.
Bolivie et Pérou, si vous voulez.